Attendez, je voulais mettre du volume. C'est animateur.
Mais 2000.
Vas-y. C'est bon ?
C'est bon, vous m'entendez ?
Oui, on t'entend mieux. Okay. On vous entend mieux.
Ok, c'est bon ?
Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Tours 99.5. Aujourd'hui, je vais interroger Monsieur Morera, qui est notre professeur de français, d'informatique, d'anglais. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
L'MFR, c'est quoi ?
Une MFR, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de formation par alternance, d'accord, qui au départ a été créé dans les milieux ruraux, un petit peu à la campagne, et qui permettait aux enfants de certains villages, de certaines petites villes, d'apprendre les métiers de l'agriculture par l'alternance entre l'école et les stages. Voilà. Donc c'est toujours le cas, mais ça s'est diversifié dans plusieurs types de formations.
Alors j'ai quelques questions à vous poser avec mes camarades de classe. Êtes-vous d'accord pour répondre à nos questions ?
Oui.
Alors première question, qu'avez-vous fait comme études ?
Alors j'ai d'abord fait des études à l'université de Tours en licence de littérature anglaise. Voilà, et puis après un BTS technico-commercial à la MFR de Tours-Rougemont.
Est-ce que vos études étaient en rapport avec vos métiers, votre métier ?
Alors au départ oui, parce que je me destinais à enseigner l'anglais. Et puis finalement, après plusieurs événements, j'ai bifurqué et j'ai fait un BTS technico-commercial dans les produits alimentaires et boissons. Donc non, c'est pas en rapport avec le métier que je fais actuellement.
D'accord, merci.
Pourquoi avez-vous voulu faire prof, professeur ?
Ben parce que j'ai toujours apprécié l'école et puis j'aimais bien l'idée de me retrouver face à des élèves. Et maintenant, je commence à connaître un peu ce travail et ça me plaît de plus en plus.
J'ai une question en concernant pourquoi vous avez fait la MFR ?
Alors, j'ai intégré la MFR donc pour un BTS parce que je voulais me reconvertir dans la vente de vins et spiritueux, et la MFR de Tours proposait une formation dans ce domaine-là. Voilà. Donc j'ai intégré la MFR sur les conseils d'un ami qui a fait son BTS avec moi.
Depuis combien de temps à peu près vous êtes parmi la MFR de Rougemont ?
Bah, du coup, ça fait, j'entame ma deuxième année. Alors, une année en tant qu'apprenant, et là, c'est la première année dans laquelle je suis moniteur formateur.
Et du coup, avant, vous étiez où ?
Avant, je travaillais en tant que surveillant, en tant qu'assistant d'éducation au collège Philippe de Comines à Tours-Sud.
Est-ce qu'à un moment, vous avez déjà réfléchi à avoir un autre métier que professeur ?
Oui, alors j'ai pas toujours voulu être enseignant. Moi, je sais que pendant un moment, je voulais même faire agent immobilier, je voulais faire vétérinaire, des choses comme ça. Et puis, même à un moment, je m'étais penché sur l'idée d'être jardinier paysagiste. Et puis finalement, c'est avec plusieurs concours de circonstances que je me suis retrouvé à faire de l'enseignement. Mais j'ai toujours adoré ça.
Moi, j'ai une question.
Oui, Chloé.
Pourquoi vous n'êtes pas resté à Philippe de Comines et vous avez préféré vous orienter à la MFR ?
Alors, c'est une bonne question, ça. Au collège Philippe de Comines, alors j'ai beaucoup aimé travailler là-bas. Simplement, quand on est surveillant, on ne peut pas faire ça plus d'un certain nombre d'années. En fait, il y a un nombre d'années maximum, c'est 6 ans. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. On peut continuer un petit peu dans certaines conditions, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire plus de 6 ans. Et moi, j'arrivais quasiment au bout de mon contrat, donc j'ai dû trouver une autre chose à faire.
Depuis combien de temps la MFR depuis combien de temps l'établissement est fait ?
Depuis combien de temps existe l'établissement ?
Oui, c'est cela.
L'établissement, alors la MFR de Tours, je ne sais pas vraiment depuis combien de temps elle existe. Alors, je sais qu'en plus, à une certaine époque, il y avait deux MFR. Il y avait la MFR de Rougemont et la MFR qui portait un autre nom. C'était deux établissements qui étaient côte à côte. Mais je ne sais pas vraiment depuis combien de temps elle existe. Mais je crois que ça fait un peu plus d'une trentaine d'années ou une quarantaine d'années.
Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question.
Donc à mon tour, j'ai une question. Dans MFR, maison familiale et rurale, on entend le mot rural, ça évoque tout de suite l'agriculture. Et je crois savoir que c'est le ministère dont vous dépendez.
Oui.
Qu'est-ce que ça change en termes d'enseignement de ne pas dépendre de l'éducation nationale et dépendre de celui de l'agriculture ? Est-ce qu'en termes de programme, parce que peut-être il y a des parents des fois qui sont inquiets ou qui se posent des questions que leur enfant passe du système de l'éducation nationale à celui de la MFR. Oui, comment on peut les rassurer ?
Oui, on a des référentiels, en effet, qui sont propres au ministère de l'Agriculture, qui suivent, en effet, donc, les programmes qui sont donc adaptés. Et, voilà, tout est contrôlé, tout est mis en place. Et puis nous, les élèves qui sont chez nous donc, dès la troisième, vont passer donc, le brevet série professionnelle. Mais on suit voilà, les programmes, le référentiel. Et par contre, pour les élèves donc, de troisième, on est quand même sous le ministère de l'Éducation nationale, donc on suit en fait le programme adapté en fait avec l'alternance. Par contre, pour tout ce qui est donc les CAP, les bacs professionnels, donc notamment là en effet, on est sous le ministère de l'Agriculture.
Et moi-même, peut-être avant de venir à la MFR et avant de venir faire l'atelier radio, je pense que j'avais un ensemble d'idées reçues. Et justement, en lisant les brochures qui sont disponibles à l'accueil de la MFR, j'ai revu un peu mon positionnement par rapport à la MFR. Je pensais que, dépendant du ministère de l'Agriculture, les formations qui étaient proposées relevaient de ce même ministère. Mais en fait, non, les élèves ont toute la liberté de choisir les voies professionnelles vers lesquelles ils souhaitent s'orienter. Ce n'est pas forcément des filières agricoles.
Non, alors à la base, vraiment, dans la conception des maisons familiales, oui, c'était des formations pures agriculture, on va dire. Mais après, voilà, vraiment, ça s'est ouvert. Et chaque maison familiale, en fait, a une spécialité. Donc nous, on est plus tout ce qui est, en effet, service aux personnes. Et puis, vous avez vraiment d'autres maisons familiales qui sont plus aussi orientées sur tout ce qui est forêt, bois, sur tout ce qui est... Mais il reste encore, en effet, des maisons familiales qui ont tout ce qui est les formations conduites d'exploitation, etc. Mais vraiment, on peut trouver toutes les formations possibles dans les maisons familiales.
Et donc ça, c'était pour le R de MFR et le F, donc familial. C'est quoi le côté familial d'une MFR ? Qu'est-ce qui vient faire là ? Qu'est-ce qui va changer d'une scolarité dans un collège général ?
Alors, c'est que nous, déjà, on n'est pas des professeurs, on est en effet des formateurs. On ne vient pas uniquement sur nos temps de cours, c'est-à-dire qu'on est présent à la maison familiale en fait toute la journée. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une proximité avec les élèves, notamment quand voilà, ils ont besoin de nous redemander quelque chose, même en tant que responsable de classe. C'est important voilà, de pouvoir voir les jeunes en fait, au quotidien et pas uniquement en fait, quand on vient pour faire nos heures de cours. Donc ça, c'est aussi un point important. On déjeune le midi avec les jeunes. Donc on a chaque formateur en fait, a des services du midi à faire. Donc on déjeune avec les jeunes et on est également sur des temps de veillée jusque en fait à l'heure du coucher. Donc voilà, ça nous permet de voir aussi les jeunes, puis eux aussi de nous voir sur des temps différents et des temps d'échange qui sont voilà aussi importants pour aussi créer du lien, surtout quand on a en fait une classe en responsabilité.
Ok, donc en fait c'est peut-être un peu piquant ce que je vais dire, mais c'est contrairement au collège où les profs quand ils sont pas sur leur temps de cours mais qu'ils sont présents dans l'établissement, ils sont dans le bunker de la salle des profs.
C'est ça.
Vous, c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir ou ils peuvent vous interpeller sur d'autres temps.
Donc ils peuvent déjà venir dans nos bureaux. Voilà, on est aussi accessible. Il suffit d'être poli, hein, on frappe, voilà. On rentre et puis après, voilà, on est aussi accessible sur ces moments-là. Ils peuvent aussi parfois, si vraiment ils ont besoin de quelque chose, venir nous voir aussi dans notre salle. Nous, c'est pas une salle de prof, c'est une salle de pause. Mais voilà, on est toujours aussi disponible sur ces temps-là aussi.
Alors là, je vais poser une question qui est peut-être un peu plus... et je m'arrêterai là. Une question qui est peut-être un peu plus politique, mais il y a quand même toujours un débat en France hein, qui existe sur la pertinence du collège unique. Est-ce que, au regard de l'expérience que vous vivez en MFR, vous portez un jugement... on va dire de valeur à dire peut-être que le fonctionnement de la MFR est quelque chose qui fonctionne mieux que le collège unique, ou est-ce qu'il y a à prendre un petit peu des deux pour trouver le bon équilibre, pour proposer aux jeunes en fait un fonctionnement d'établissement qui convient ?
Bah, disons que quand on a un parcours qui peut être parfois un peu difficile, quand parfois on est confronté à des difficultés, quelles qu'elles soient, et qu'à un moment donné, on a vraiment envie de basculer un peu plus dans le monde en fait, professionnel, c'est vrai que du coup, bah, les maisons familiales vont aider aussi, du fait de l'alternance, à ce que les jeunes puissent aller beaucoup plus rapidement en fait, dans le monde professionnel, trouver leur voie, et puis de ce fait, décrocher aussi des contrats d'apprentissage, puisque c'est des choses qui se font vraiment beaucoup, notamment à la fin d'une année scolaire, beaucoup de jeunes... décrochent des contrats d'apprentissage pour après pouvoir poursuivre. Et puis, c'est vrai que nous, les apprentissages sont aussi adaptés au niveau des élèves, ce qui fait que les élèves s'y retrouvent, retrouvent parfois pour certains une certaine confiance en eux pour pouvoir aussi poursuivre dans leurs études.
J'avais des questions à vous poser. Pourquoi être venue à la MFR et pas un collège normal, Amy ?
Parce que moi, on va dire avec mes problèmes de comportement, je ne pouvais plus rester en cours. Et du coup, c'était soit la MFR, soit j'étais déscolarisée.
Les stages, ça t'apporte quoi à la MFR ?
Du coup, ça m'apporte le fait qu'on soit moins chargé au niveau des devoirs, moins chargé au niveau des cours. Et surtout, on peut... découvrir d'autres types de métiers si on n'a pas d'idée ou si on a une idée fixe, qu'on soit sûr que c'est bien cette idée-là qu'on veut faire plus tard.
Sonia,
oui.
Ça te sert à quoi l'alternance à la MFR ?
L'alternance, ça me sert quoi ? Ça me sert de découvrir le métier et aussi pouvoir savoir si je veux faire ce métier-là. Quand on est dans un collège normal, on ne peut pas savoir tout de suite si on sait tout de suite le métier, quoi. Si on veut faire, par exemple, la coiffeur, on ne peut pas savoir.
Et Juliette, ça te sert à quoi les stages à la MFR ? Question comme j'ai posé.
Les stages à la MFR, ça me sert déjà à être moins à l'école, parce que l'école, c'est pas facile. Et aussi à découvrir d'autres choses que d'être enfermé dans une classe et d'écouter un prof parler. Et du coup, ça me sert à découvrir plein de choses.
Et toi, Ilias ?
Être venu à la MFR ?
Oui.
Honnêtement, déjà, on est moins enfermé, il y a plus de sorties. Et franchement, on s'ennuie moins et tout. Mais du coup, les stages, en soi, ça me permet d'être moins en cours. Et franchement, c'est mieux comme ça. Hein.
Bonjour, je suis en compagnie de Nelson, élève à la MFR Rougemont. Je vais lui poser des questions sur un sport qu'il pratique.
Le basket, hein.
Dans quel club joues-tu ?
Moi, je joue à Monet.
Pourquoi avoir choisi le basket ?
J'ai choisi le basket car j'en ai toujours fait dehors avec mes parents et c'était une passion comme ça.
Qui est ton idole dans le basket ?
Ja Morant, direct.
Penses-tu devenir basketteur professionnel ou veux-tu garder ce sport comme un loisir ou une passion ?
Je garderai toujours ce sport comme une passion. Hein.
Avec ton équipe, obtiens-tu de bons résultats ?
Oui, on a de très bons résultats. On est classé dans la meilleure poule.
C'est trois poules.
C'est un classement... comment dire ? C'est un classement, en fait.
Nelson, tu nous as expliqué que tu pratiquais le basket depuis toujours avec tes parents. Est-ce que tes parents sont basketteurs aussi ou ont pratiqué le basket ?
Mon père en a fait, oui, dans un très...
Chloé, attends. On va couper le micro de Chloé, parce qu'en fait, voilà, hop, j'ai le pouvoir suprême de pouvoir couper les micros.
Mon père a joué dans un très bon club en étant petit, donc du coup, oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon coach.
Ok, donc ton père est aussi ton entraîneur.
Ouais.
Est-ce que c'est particulier, du coup, d'avoir à son père comme entraîneur au sein même d'un collectif dans l'équipe de basket ? Est-ce que du coup, il change de casquette, là, c'est plus ton père, c'est ton entraîneur ?
Non, ça reste quand même mon entraîneur. Il n'y a pas de préférence.
Et tu pratiques le basket, donc c'est une passion. Est-ce que tu suis un championnat de basket, que ce soit en France ou à l'étranger ?
Je suis la NBA et aussi les matchs pro à Tours.
Est-ce que en NBA, tu as un joueur préféré ? Je crois. Tu peux nous rappeler le nom du joueur que tu préfères ?
Ah oui, c'est Ja Morant.
Qui joue dans quelle équipe ?
Ça, j'ai oublié. Il joue dans beaucoup d'équipes aussi, lui aussi, là.
Il occupe quel poste ?
Il a un peu tout quand même, il mène le jeu et parfois il joue aussi au poste.
Donc meneur mais aussi shooter.
Il est polyvalent dans son jeu.
Et toi, le poste que tu occupes dans l'équipe de Monet, c'est quel poste ?
Moi, bah, c'est en bas du panier, hein, le poste...
De pivot ?
Ouais, voilà.
Lié à ta taille ?
Yes.
Parce que dans ta catégorie, U15 ?
Ouais.
C'est ça, tu fais partie des...
Bah, des plus grands, ouais.
Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs, j'imagine que si ton père et tes parents sont passionnés de basket dont tu as entendu parler, est-ce qu'il y a des joueurs légendaires de la... du championnat américain, de NBA, que tu admires aussi?
Ouais, ouais, ouais. Kobe Bryant, Jordan, Shaquille O'Neal aussi.
Ouais, Shaquille O'Neal qui occupe le poste. Enfin, ouais, qui ouais. occupait le poste que ouais, tu occupes, ouais, ouais. qui était un des plus grands pivots de l'histoire de la Ligue.
Oui, oui.
Chloé, toi, tu... Nelson, t'as pas posé la question, mais toi, t'as pratiqué un sport aussi, l'athlétisme, je crois.
Oui.
Bon, à ton tour, Chloé, je vais te poser quelques questions aussi. Sur le basket, sur toujours le basket. Tu regardes beaucoup la NBA ?
Oui, je regarde des émissions de basket, oui, souvent.
Ok, ok. Mais c'est quoi ton équipe préférée au basket ?
Les Lakers.
Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. T'as regardé, c'est quoi ton dernier match que t'as regardé récemment
Les Clippers et les Warriors.
Ah ouais, tu sais le score un peu ?
Non, non. Bah,
tu connais pas trop le score ?
Non, je connais pas trop.
Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. Et puis, t'as déjà pratiqué le basket aussi ? Parce que si tu regardes, etc., tu t'intéresses
Non, non, je regarde juste, ça m'intéresse, c'est tout. Je me vois pas, pratiquer ce sport.
Ok, ok. Et ben, cette passion, elle est venue d'où ?
Je sais pas.
Ok, ok.
Parce qu'on en a pratiqué à l'école, du coup, bah, je me suis intéressée.
Ok, bon bah merci d'avoir répondu à mes questions. C'était Radio Campus à Tours, voilà.
99.5.
Bonne journée à tous.
Ouais. Bonjour, nous sommes sur Radio Campus Tours 99.5 avec Mathis et Maxime. On va vous parler de la Ligue des Champions. Alors Maxime, dis-nous les équipes qualifiées.
Bonjour à tous, nous avons le Real Madrid, le Chelsea, le Naples et Bayern Munich, l'AC Milan, Benfica, Inter Milan et Manchester City.
Et Mathis, pour toi, quelle est l'équipe qui t'a impressionné pour l'instant ?
Bonjour à tous, l'équipe qui m'a impressionné cette année, c'est le Benfica.
Mathis et Maxime, pour vous, quelle est l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions cette année ?
Moi, je dirais le Real Madrid, encore une fois.
Moi, je dirais Manchester City.
Est-ce que, à l'inverse, des équipes vous ont déçu ? On va faire un tour de table. Est-ce que des équipes vous ont déçu jusqu'à présent dans cette Ligue des Champions, Elias ?
Moi, c'est Paris. Ça m'a beaucoup déçu. Contre le Bayern, franchement...
Tu attendais un meilleur résultat ?
Oui, j'attendais un meilleur résultat parce que là, franchement, ils ont fait n'importe quoi, Paris.
Toi, Maxime ?
Liverpool, je croyais qu'ils allaient aller plus loin, mais en fait, non.
D'accord, donc Paris, Liverpool comme équipe décevante. Ouais, et toi, Mathis ?
Moi aussi, Paris.
Donc, on a deux Paris et un Liverpool. Pour quelles raisons aussi ? Déçu ?
Wow, ouais, déçu, hein. J'ai cru qu'ils allaient aller loin, mais pas du tout.
Est-ce que parmi les équipes qui sont encore en lice, il y a une de vos équipes que vous, personnellement, vous avez comme équipe de cœur ? Parce que vous avez cité les équipes favorites, mais ce n'est pas forcément les équipes que... qu'on porte dans son cœur, dont on est supporter. Est-ce que votre équipe de cœur est encore qualifiée, Mathis ?
Oui, le Real Madrid.
Donc un Madrilène, toujours qualifié. Maxime ?
Oui, moi aussi, le Real Madrid.
Ça m'aurait surpris, parce que tu portes aujourd'hui même le survêtement du Real Madrid, donc j'aurais été surpris d'une autre réponse. Et toi, Elias ?
Moi, franchement, je n'ai pas d'équipe de cœur, mais pour cette année, je suis quand même plus pour Manchester City, hein.
Je crois que Manchester City, il y a un gros enjeu, c'est pour savoir si enfin Guardiola va réussir à faire gagner une autre équipe que Barcelone, la Ligue des Champions. C'est par rapport à Guardiola aussi que tu espères voir Manchester City remporter la Ligue des Champions ?
En fait, je crois que je suis pour le Bayern.
Alors, entre-temps, tu as changé ton fusil d'épaule. Est-ce que c'est la performance du Bayern contre Paris qui t'a finalement décidé ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que en fait, le Bayern, ils ont battu Paris. Du coup, bah, je me sens plus pour le Bayern et tout. Parce que voilà, Manchester City, bah, c'est pas trop mon truc, quoi.
Alors, je crois que parmi toutes les équipes qui sont encore en lice, une seule de toutes les équipes encore qualifiées n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Parce que vous savez, quelle est l'équipe de toutes les équipes qualifiées pour les quarts, laquelle n'a jamais remporté la Ligue des Champions ? Il n'y en a qu'une.
Il me semble que c'est le Benfica.
Ah non, Benfica a remporté plusieurs Ligues des Champions. Benfica, lui tout seul, a remporté plus de trophées que l'ensemble des clubs français réunis. Donc,
je crois que c'est Naples.
Alors, il y a Naples, effectivement. Mais Naples a déjà remporté une coupe UEFA avec Maradona. C'est Manchester City. Manchester City n'a jamais remporté la Ligue des Champions. C'est la seule équipe déqualifiée pour les quarts avec Naples qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions.
En plus, j'allais le dire, mais en fait, je me demandais s'il y avait plusieurs équipes ou pas.
Et puisque vous avez cité Paris, est-ce que à court terme, vous voyez Paris remporter la Ligue des Champions, les garçons ?
Bah, plus trop maintenant.
Non, jamais de la vie.
Ouais, si peut-être dans les prochaines années. Hein.
Bonjour, je m'appelle Emilia et aujourd'hui je vais vous parler de Jojo. Jojo c'est quoi ? C'est un manga d'animé de science-fiction japonais où des personnes ils ont des pouvoirs. Dans Jojo on obtient un pouvoir qui s'appelle un stand en se plantant une flèche de stand. Et si on obtient un stand, il y a différents pouvoirs. Certains tirent, d'autres contrôlent le temps, d'autres la météo. Et y en a certains qui sont plus forts dans certaines conditions que d'autres. Et pour moi, les meilleurs combats, c'est Pucci contre Wither et Porto, Jotaro Kujo contre Dio et Johnny contre Funny Valentine. Et merci de m'avoir écouté. Et maintenant, la suite.
Bonjour à tous, je m'appelle Sonia, je suis une élève de Rangemont. Je vais vous parler d'un jeu vidéo, ça s'appelle PUBG. C'est un jeu de tir de moins de 16 ans, mais j'ai 14 ans, je joue, mais c'est pas très violent, c'est même pas sanglant, on voit pas, même pas le corps. C'est un caisse comme les jeux de Fortnite, de stuff et tout. Quand on commence le jeu, on saute d'un avion et tout. Après qu'on a sauté d'un avion, on doit charger des matériels pour survivre, en gros. C'est des armes, des trucs de soins et charger dans les bâtiments alentours et tout. Quand on doit faire des missions pour gagner des médailles, de tir, de quand on joue en équipe bien et plein d'autres choses, on peut aussi récupérer des vêtements, des pièces pour acheter des vêtements.
Moi, j'avais une question, Sonia. Tout d'abord, sur quelle console on peut jouer à ce jeu ?
On peut jouer sur les ordi, sur les portables, sur presque tout, en fait.
Et tu disais que ce jeu appartenait à une famille de jeux, que tu disais que c'était un jeu qui était semblable à Fortnite. Donc en fait c'est des jeux de survie si je comprends bien.
Oui, c'est un jeu de survie, c'est à peu près la même chose parce qu'en fait c'est on doit aller dans une zone pour pas que le zone qu'on se fasse
repérer et éliminer.
En fait on a un genre de comment ça s'appelle, rayon bleu qu'on doit dans hors de la zone sécurité. On est en train de perdre des vies plusieurs fois et on doit à chaque fois essayer de sortir, courir vite avec prendre des genres de potions de rapidité ou des médicaments ou des et on peut aussi, si on voit un véhicule, on peut le prendre.
Est-ce que on joue seul face à d'autres joueurs qui sont connectés en ligne ou c'est seul face au jeu? Comment ça se passe? C'est en ligne avec d'autres joueurs connectés ailleurs dans le monde?
On peut jouer avec plein de gens, mais on peut choisir de jouer seul. On peut aussi choisir de jouer avec des gens, mais pas de parler, de plutôt parler dans un chat, de pas parler dans un micro. Parce que des fois, on ne connaît pas la langue et tout ça.
Ouais, d'où le fait aussi peut-être que le jeu est classé PEGI 16, puisqu'il y a la notion de chat avec des joueurs connectés du monde entier. Donc, il faut être vigilant si on, est enfant. Voilà.
C'est ça, si on est enfant. Mais en tout cas, moi, je fais attention. Je joue pour jouer. Je ne joue pas pour faire autre chose.
Ok, donc la passion du jeu. Merci à toi, Sonia.
Merci.
« Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Tours 99.5. Je me présente, je m'appelle Amy, j'ai 14 ans et nous sommes au collège de la MFR Rougemont à Tournord. Et je vais vous présenter avec ma copine Juliette deux races de chiens totalement différentes, donc les Golden Retriever et les Rhodesian Ridgeback.
Bonjour, je me présente Juliette, j'ai 14 ans, nous sommes au collège de la MFR Rougemont à Tournord. Et je vais vous présenter, avec une copine Amy, deux races de chiens totalement différentes. Voici les deux races, le Golden Retriever, le Ridgeback.
Donc le Ridgeback est un chien issu d'Afrique du Sud. Cette race est considérée comme un chien de défense, un chien d'attaque. Donc ils sont en général une meute de 5 chiens et y a un lion et bam, il n'y a plus de lion. Donc cette race est grand, enfin ce chien est plutôt grand à poil court en faisant 1m60 sur ses pattes arrière. Il fait entre 50 à 70 kg. Cette race est assez simple à éduquer. Il est également agile, il a beaucoup d'agilité. Ce chien est du coup affectueux et protège énormément sa propriété et ses maîtres. Il faut en général 30 à 1 heure de balade par jour. Il mange 3 fois par jour. Il a j'ai un Rhodesian Ridgeback chez moi, il s'appelle Ramsès et il a 3 ans. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait vouloir faire mon métier plus tard, donc éducatrice canine dans l'armée. Et du coup, je remercie énormément mes parents pour l'avoir acheté.
Moi, je vais vous présenter du coup le Golden Retriever. C'est un chien à poil long, blanc et qui aime beaucoup nager. Il fait entre 30 et 40 kilos. Et il mesure à peu près 1m10 et 1m20. Il fait plein de câlins. Il aime dormir. Il aime se balader. J'ai du coup le Golden et il a 8 ans. Et il s'appelle Loukoum. Ça fait très bien penser. Merci de nous aider et stopper les abandons sur nos amis, les animaux.
Si vous avez entendu parler, vu des choses à propos de cela, appelez l'association 30 millions d'amis. Merci d'avoir écouté Radio Campus Tours 99.5.
Merci.